France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant, émission proposée par la Fédération protestante de France. Une année nouvelle, inversée pour avancer, et un ministère essentiel, celui des aumôniers en prison. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Philippe Aurouze, aumônier national protestant des prisons, pasteur adventiste également, et ce depuis plus de 30 ans. Il consacre désormais son ministère à l'accompagnement spirituel des personnes incarcérées et à l'animation du réseau des aumôniers répartis dans tout le pays. Nous parlerons ensemble de ce ministère si particulier, souvent méconnu mais essentiel. Et puis comme chaque début d'année, nous méditerons aussi sur le verset choisi par la Fédération protestante de France pour 2026. Bonjour Philippe Aurouze.
Bonjour.
Philippe, j'ai dit un certain nombre de choses en introduction à votre sujet, mais pour nos auditeurs qui vous découvrent ce matin, vous, comment aimeriez-vous vous présenter ?
C'est une bonne question. Comme quelqu'un qui a grandi dans les Alpes, qui a eu un parcours somme toute très classique dans l'adolescence, et puis qui très vite a senti un appel. Alors un appel prioritairement pour la médecine. Et j'ai voulu tout faire pour aller sur la médecine, et la chirurgie en particulier.
D'accord.
Et puis en sixième, j'ai croisé un prêtre dans l'école où j'étais, qui lui m'a dit « Non, tu sais, tu seras pasteur ».
Ah.
Oh, j'ai rigolé. Hein. Et puis il me l'a redit en cinquième, j'ai toujours rigolé. Et puis en quatrième, et
c'est
puis
étonnant.
En troisième, jusqu'au moment où je lui ai dit « Écoute, là maintenant c'est fini, on n'en parle plus. Moi je vais direction la médecine et pour le pastorat, tu laisseras tomber ». C'est d'ailleurs très surprenant qu'un prêtre me dise que je serai destiné au pastorat et non pas à la prêtrise. Mais bon, on a eu de très bons rapports ensemble. Il a d'ailleurs été un véritable agent de résilience pour moi, au regard des difficultés que je pouvais traverser à cette époque. Et puis, Dieu a eu raison, et peut-être et vraisemblablement, il avait parlé à travers ce prêtre, puisque j'ai fait ma première année de médecine, mais dans les premiers mois, Dieu m'a récupéré, et j'ai vraiment eu une conversion, on va dire, à ce moment-là, même si j'avais été baptisé préalablement, j'étais engagé dans l'Église, mais ma vraie conversion s'est jouée à ce moment, et j'ai déposé les armes et j'ai dit adieu, finalement je vais aller en théologie.
Et 30 ans donc environ pasteur, qu'est-ce qui a tout au long de votre vie nourri, façonné votre relation au Christ ?
La passion de la relation, la grâce, la liberté qu'il nous offre et le changement de regard sur la vie. Bref, il y a une espérance qui me porte. Et ça n'a pas changé. Au regard de toutes les circonstances de vie que nous pouvons traverser, subir, je pense qu'on peut en sortir par le haut parce que le Seigneur est là, parce qu'il nous guide, parce qu'il nous soutient. Alors, il ne transforme pas la vie en pétale de rose, mais ça nous permet de vivre différemment, en une forme de quiétude, de sérénité, et justement d'avancer vers une espérance positive.
Et puis donc, à un moment donné, vous vous engagez auprès des personnes détenues. Comment s'est opérée cette forme de bifurcation? Est-ce que c'était un appel, une intuition, une rencontre? Là encore, un prêtre que vous rencontrez qui...
Non, là, pour le coup, ça a été un pasteur. Alors, c'est multifactoriel.
Ouais.
Après 32 ans de pastorat, dont 20 dans l'administration, j'ai été secrétaire exécutif, trésorier à différents postes au niveau de ma fédération, puis de l'Union d'Église.
Ouais.
Je me sentais plus à même d'accomplir et de revenir à la mission première, à savoir le pastorat. Et si, au moment où j'étais dans ma fédération, je pouvais avoir et de l'administratif et du pastorat, lorsque j'étais à l'Union, c'était plus possible et il m'a semblé nécessaire de revenir sur le terrain. Donc j'ai refusé un nouveau mandat, et avant de reprendre une église dans ma fédération d'église, un pasteur est venu et m'a proposé une autre église, une église en détention. C'était un véritable défi à relever, que j'ai accepté, parce que non seulement c'était de devenir aumônier, mais en plus c'était prendre la responsabilité d'animer le service.
En quoi consiste justement ce poste d'aumônier national ?
Alors, il est en plusieurs parties. La première, c'est coordonner les 414 aumôniers qui sont sur tout le territoire national. Quand je dis national, c'est l'Hexagone et les Outre-mer.
Oui.
414 aumôniers qui proviennent de 51 églises protestantes différentes.
Ouais, c'est impressionnant.
C'est très large, c'est impressionnant, c'est formidable, c'est une diversité, une richesse. Hein.
Oui, quand on parle de la diversité protestante, là, elle est sur le terrain, concrète.
Complète.
Ouais.
Ensuite, c'est former, accompagner. Alors, il y a certes des aumôniers régionaux, il y a des équipes au niveau des établissements, mais c'est quand même accompagner lors du diplôme universitaire à Strasbourg,
oui, aussi,
pour ceux qui le passent.
C'est obligatoire maintenant, je crois.
Alors, obligatoire pour ceux qui sont rémunérés, mais nous l'avons rendu obligatoire pour tous les aumôniers protestants.
Ouais, ce qui est très
c'est
bien,
aller dans les régions deux fois par an pour être au contact, là aussi accompagner, former, écouter aussi beaucoup. Ensuite, c'est des relations inter-protestantes, puisque là, il faut mettre tout le monde ensemble.
Ouais, ouais.
Et puis aussi, représenter le protestantisme, et en particulier le protestantisme engagé en détention, auprès des autorités, des pouvoirs publics, parce qu'ils ne veulent voir qu'une seule tête et qu'un seul représentant. Nous sommes 7 aumôniers nationaux pour le monde carcéral. Je fais partie d'un des 7.
Voilà. Comment vous définiriez le travail d'un aumônier en prison?
Alors, assez simple. C'est un travail pastoral, quand bien même ils ne sont pas pasteurs, puisque à peu près 75% des aumôniers protestants sont des laïcs. Il y a deux axes principaux. Le premier, c'est la visite en cellule, visite individuelle.
Ce qui est rare, je crois que c'est...
On est quasiment les seuls à pouvoir
rentrer. Oui, à l'intérieur de la cellule. Et...
Dans bien des cas, nous avons les clés des cellules, les gens nous font confiance. Alors attention, nous ne pouvons rencontrer que les personnes qui en ont fait la demande.
Oui.
Ça, c'est important.
Vous ne vous imposez pas, jamais.
On ne s'impose pas, il n'y a pas de prosélytisme. Oui. C'est vraiment un accompagnement moral et spirituel de la personne en détention. Donc, il y a cette visite, ce soutien, cet accompagnement. Et bien souvent, on peut parler, comme dans une visite pastorale hors les murs, en église, de tout et n'importe quoi. Et pour autant, ce tout et n'importe quoi est fondamental pour la personne qui l'exprime.
Oui.
Donc, c'est quelque chose de nécessaire. Puis ensuite, il y a cet accompagnement spirituel. Ouvrir le texte biblique, répondre à des questions de vie, des questions existentielles, des pourquoi qui n'ont pas de réponse. Alors, nous n'en avons pas d'eau à fournir, mais c'est un chemin, un accompagnement tout au long de la maturation de la personne qui est en détention. Puis forcément, quand vous êtes à 2 voire 3 dans un 9 mètres carrés, vous avez d'autres questions qui se posent. La surpopulation carcérale est aujourd'hui inadmissible.
Ouais, vous êtes confronté.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est les aspects collectifs, le culte. Alors, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, ça dépend des établissements. Là, c'est une célébration classique. Quand je dis classique,
adaptée à la situation.
Au lieu et aux personnes qui sont là. Alors, dans les centres de détention, les maisons centrales, où les gens sont là pour un temps assez long, on revoit à peu près les mêmes individus et on peut construire quelque chose. En revanche, pour les maisons d'arrêt, c'est des fois compliqué, d'autant qu'il y a beaucoup de langues différentes qui peuvent se retrouver au même endroit. À Fleury, par exemple, il peut y avoir à un moment donné, dans certains quartiers, 2, 3, 4 langues en même temps. Donc c'est un peu compliqué. Et puis, à certains endroits, vous avez des groupes de paroles, des études bibliques qui se font aussi en semaine. C'est beaucoup plus rare de notre côté, mais c'est toujours un temps collectif. Donc voilà, un temps individuel, en cellule ou dans un lieu approprié, et un temps collectif
pour la célébration. Et j'imagine des gens qui font appel à vous, qui sont déjà engagés dans la foi, protestants, et puis d'autres qui ne le sont pas du tout.
Oui, la plupart sont ou ont eu une expérience avec l'Église, avec la foi protestante. Bien souvent, en arrivant en détention, ils s'en souviennent et ils veulent retisser des liens, reconnecter. Il y en a d'autres qui étaient déjà très engagés et qui poursuivent leur engagement en détention. Et puis, il y a ceux qui s'interrogent, qui se posent des questions. Alors, ils se disent, les catholiques, on connaît. L'islam, le judaïsme, les témoins de Jéhovah, les orthodoxes, non. Le bouddhisme, encore moins. Bon, il reste les protestants, on va aller voir.
curiosité.
Mais il y a de belles expériences qui se passent et des gens découvrent la foi. Il y a des baptêmes en prison.
Moi, à vrai dire... petite confidence, j'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois accompagner des pasteurs ou des aumôniers en prison, et ça a toujours été des expériences assez bouleversantes et de très très belles rencontres. Et voilà, c'est un ministère que, et je suis très heureux de vous accueillir pour ça.
Il n'y a pas d'artifice en tout cas.
Non, je crois que c'est difficile de faire semblant dans ces situations. Avant de continuer notre discussion, et pour faire aussi écho à tout cela, je voudrais donner la parole à notre chère chroniqueuse, Sophie Ollier, pasteur aussi de son état à Paris, dans la paroisse de Pantemont-Luxembourg. Vous avez déjà fait l'aumônerie aux prisons, non ?
Non, jamais. Ça m'a toujours beaucoup questionnée. J'aimerais beaucoup jour...
Expérience à vivre.
Oui, mais j'ai l'expérience de paroissien qui accompagnait des aumôniers en maison d'arrêt.
Bon, en tout cas, Philippe est là, si vous voulez connecter.
Avec plaisir.
Bonjour en tout cas Sophie.
Bonjour Jean-Luc.
Bonne année.
Bonne année.
Je redonnerai un bonne année plus général en fin d'émission. J'ai cru comprendre que la présence de Philippe justement et ce sujet autour de l'aumônerie aux prisons vous interpelle sur la question de l'enfermement.
Oui, effectivement, et quelle ouverture. Parce qu'il y a un truc qui marque quand même vachement en ce moment, c'est que quand on observe un peu notre société, on se rend compte d'une chose assez troublante, c'est qu'on n'a jamais eu autant de moyens pour communiquer, échanger, essayer de se comprendre, et pourtant on n'a jamais été aussi rapide pour réduire l'autre à presque rien. Aujourd'hui, on résume quelqu'un en une phrase, parfois en un seul mot. Il est comme ci, elle est comme ça. Puisqu'il est ou puisqu'elle est, alors c'est qu'il ou elle est. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Et une fois que c'est dit, mine de rien, on n'autorise plus l'autre à être autre chose que cette définition posée. On laisse plus beaucoup de place à la surprise, au changement ou tout simplement à la diversité de l'être et sa complexité.
Et c'est vrai que la nuance disparaît parfois, souvent même.
Ouais, mais complètement. On vit dans un monde où la nuance a mauvaise presse. On préfère la case parce qu'apparemment elle rassure. Elle dit « je t'ai classé, je t'ai compris, j'ai plus besoin de t'écouter ». Sauf que finalement, dès qu'on range quelqu'un dans une case, on l'y enferme et on s'enferme un peu avec lui. Et quand quelqu'un a fait du mal ou quand quelqu'un s'est trompé lourdement, ça arrive. Alors là, c'est encore plus radical. On définit cette personne par son erreur, comme si son identité entière était figée là, une fois pour toutes.
Et pour rester dans la thématique du jour, c'est vrai aussi que dans les parcours carcéraux, mais pas seulement évidemment, on voit à quel point une étiquette peut coller à la peau.
N'est-ce pas ?
Ouais.
Et quand une personne est ainsi réduite à son passé, à un geste, à une faute, elle n'a plus beaucoup d'espace pour respirer. Plus beaucoup de place pour devenir quelque chose de neuf. Et on a parfois tendance à penser que les gens ne changent pas ou qu'ils ne méritent pas de changer. Leur faute devient leur identité. Et pourtant, pour qu'un changement soit possible, il faut souvent qu'un autre, quelque part, ose poser un regard différent.
Et alors, quel type de regard ?
Un regard qui ose dire « tu n'es pas que ça ». Un regard qui dit « tu as fait quelque chose de grave, ok, mais tu n'es pas fini ». Un regard qui ouvre à autre chose qu'à la fatalité de cette étiquette posée. Et surtout une parole qui, quand elle est sincère, peut vraiment déplacer des montagnes. Et c'est même parfois ce qui relance une existence entière. Et cette parole-là, on la trouve très discrètement dans le livre des Actes dans la Bible, lorsque Saul, qui deviendra Paul, se trouve aveuglé sur le chemin de Damas où le Christ lui fait comprendre les persécutions qu'il fait subir à d'autres. Saul sera aveuglé pendant 3 jours. Et se produit alors une scène qui n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas d'effets spéciaux, pas de musique dramatique, c'est juste une rencontre. Une rencontre avec Ananias, qui, face à cet ennemi d'hier qui ne voit plus rien, pose une main sur ses épaules, ce qui est déjà là extraordinaire. Mais le plus incroyable, ce sont ses premiers mots. « Saul, mon frère ». Et pour moi, c'est un des mots les plus fous de la Bible, « mon frère ». Parce qu'à ce moment-là, Saul n'a rien d'un frère. Rien, absolument rien ne justifie ce titre. Et pourtant, Ananias le lui donne. Pas comme une médaille, pas comme une récompense, mais comme une ouverture, comme une possibilité, comme une identité en devenir. C'est en entendant un autre l'appeler « mon frère » que Saul ouvre les yeux. Et c'est là que se joue le vrai miracle. Ananias réhumanise Saul avant même que Saul ait eu le temps de changer. Il ne voit pas seulement ce qu'il a fait, il voit ce qu'il peut devenir. Il ne parle pas à l'homme dangereux qui la craint, il parle à l'homme qui peut se relever. Et ça, c'est incroyablement actuel. On en parle aujourd'hui avec l'aumônerie des prisons, c'est l'essence même de l'aumônier, je crois. Mais ce n'est pas que là. C'est dans nos familles, nos quartiers, nos églises, nos réseaux sociaux, dans toutes les étiquettes que nous pouvons poser sur les autres qui deviennent des prisons plus solides que des murs. Nous osons rarement cette étiquette-là, celle de frère ou de sœur. Et pourtant, quelle puissance ! Et ce n'est pas être naïf, ce n'est pas tout excuser, c'est un acte de foi. Une confiance courageuse. La confiance que personne n'est figé pour toujours. La confiance que l'avenir n'est pas condamné à ressembler au passé. La confiance que Dieu peut faire quelque chose de neuf avec les histoires abîmées.
Et là, nous parlons spécifiquement pour celles et ceux qui auraient peut-être fait du mal, entre guillemets. Mais cela est tellement vrai aussi pour toutes les personnes qui n'ont rien fait et sur qui, pourtant, nous posons aussi une étiquette.
Effectivement. Et Ananias nous montre que la vraie libération, la vraie communion, commence quand quelqu'un ose dire « mon frère, ma sœur ». Alors voilà, si je devais laisser un seul mot pour aujourd'hui, ce serait celui-là. Oser humaniser et réhumaniser. Oser appeler frère ou sœur celui ou celle qui est en face de moi, par confiance en la puissance de cette parole. Peut-être alors que nous comprendrons la fraternité en Christ, et peut-être aussi que nous comprendrons la fraternité de la République.
Eh bien merci Sophie, redonner de la fraternité Philippe Aurouz. Alors justement, j'avais prévu vous poser cette question, qu'est-ce qu'un aumônier peut offrir de particulier? Est-ce que ce serait cette fraternité, notamment?
Mais je crois que Sophie a tout dit. Ouais. Merci en tout cas.
Elle peut devenir aumônier?
Elle peut. En tout cas, je l'invite avec joie. Oui, la première tâche, c'est d'écouter l'autre. Or, pour l'écouter, c'est aller jusqu'à lui. Et quand on dit aller jusqu'à lui, c'est pas simplement passer les nombreuses portes qui nous séparent de sa cellule. C'est aussi ouvrir ce qui, dans nos têtes, peut générer séparation. À savoir, est-ce que je vais accomplir un acte de charité pour aller voir quelqu'un qui est détenu, un fautif, un coupable qu'on doit punir? Ou est-ce que je vais rencontrer un frère, une sœur en humanité, en Christ même, au-delà de ce qu'il a pu commettre? Et donc, ce n'est pas ce qu'il a fait qui doit le caractériser, c'est ce qu'il est, et en cela, c'est mon égal. Chaque fois que je rentre en détention, je fais cette prière intérieure en disant « Seigneur, aide-moi à voir en l'autre quelqu'un qui a autant, voire peut-être plus d'importance à tes yeux que moi. » Et donc, je suis à égalité avec l'autre. Certes, je vais ressortir, lui, un peu plus tard. Mais nous sommes, aux yeux de Dieu, avec la même valeur. Et ça, ça change tout. Et lorsque nous nous mettons à écouter, lorsque l'aumônier se met à écouter, il écoute un frère, il écoute une sœur, et on peut cheminer à égalité, parce que ce qui nous unit, ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce que nous sommes dans la relation avec Dieu.
Philippe, merci pour ces mots, important à entendre, pas toujours facile j'imagine à comprendre, mais en tout cas expérience à vivre certainement. Vous connaissez l'émission, nous ouvrons généralement la Bible au travers du rendez-vous avec la parole, et ce matin, premier dimanche de cette nouvelle année, je souhaitais que nous écoutions le verset choisi par la Fédération protestante comme une sorte d'indicateur pour les mois à venir, en 2026. C'est le verset 17 du 32e chapitre du livre d'Ésaïe, Ésaïe 32, 17 donc. Et c'est Lydie Jean-Théodore qui se charge de cette lecture en élargissant aux deux versets précédents, du verset 15 au verset 17.
Il en sera ainsi jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. Et alors, le désert deviendra un verger, et le verger sera semblable à la forêt. Le droit habitera dans le désert, et la justice dans le verger. Le fruit de la justice sera la paix. L'effet de la justice, ce sera la tranquillité et la sécurité à tout jamais.
Alors tout ce contexte pour arriver à ce verset clé, verset 2026 de la Fédération protestante de France, le fruit de la justice sera la paix. Mot d'ordre, verset choisi. Pasteur Philippe Aurouz, quand vous entendez cette parole, qu'est-ce qui résonne en vous?
Tout résonne. D'abord parce que c'est un verset très court. Le fruit de la justice sera la paix. Si on décompose, c'est relativement simple, il y a un processus de maturation. On n'arrive pas à un fruit de manière instantanée, immédiate. Le fruit, avant qu'il ne mature, a besoin de passer par l'étape de la fleur, et puis ça prend du temps, il est vert, pour ensuite arriver à une maturation permettant la plénitude de ce dont il est porteur. Et ce dont il est porteur là, c'est la justice, la tzedaka. une justice qui est une justice sociale, il faut le dire. Dans le texte biblique, on ne parle pas d'une justice au sens
punitive,
la droiture punitive, où on doit passer devant un juge qui viendrait sanctionner tous les actes.
Ouais.
Non, non, on parle d'une justice sociale. Et d'ailleurs, tout le contexte est dans ce cadre-là. D'abord parce que on est dans une crise politique et sociale réelle, profonde, du royaume de Juda. Ce royaume-là cherche des sécurités humaines face aux menaces. Et puis les élites sont dénoncées pour leur injustice. Un combo qui, de près ou de loin, ressemblerait à la situation dans laquelle nous nous trouvons.
Mmh.
Comment pouvons-nous ouvrir 2026 différemment ? Mais en laissant mûrir une justice, mais une vraie justice. Une justice contre l'individualisme. Une justice restaurative, pour reprendre des termes liés à la prison.
Oui,
une justice où, quelque part, l'autre a une place, et pas simplement a une place, mais j'accepte de lui faire de la place. Et pour accepter de lui faire de la place, j'ai besoin de changer, quelque part, des paradigmes dans ma tête. Et j'aimerais reprendre un autre verset qui est un peu plus loin dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 58, où Dieu s'adresse là aussi au peuple en disant, voilà, le jeûne qui me plaît, si vous voulez vous sacrifier, on peut en parler. Il ne s'agit pas d'offrir des présents à la divinité, fût-elle moi, mais il s'agit de vivre différemment. Et je lis Ésaïe 58 à partir du verset 6, « Libérez les gens enchaînés injustement.
Ouais. »
Enlevez le joug qui pèse sur eux, rendez la liberté à ceux qu'on écrase, bref, supprimez tout ce qui les rend esclaves. Partage ton pain avec celui qui a faim, loge les pauvres qui n'ont pas de maison, habille ceux qui n'ont pas de vêtements, ne te détourne pas de celui qui est ton frère.
Mmh. On retrouve la fraternité là encore.
On retrouve la fraternité. Et si vous avez remarqué, je suis passé d'un collectif à
oui.
l'individuel,
oui.
Ça s'adresse à moi,
mm-hmm.
ça s'adresse pas à tous, et vous savez, le tous qui oui. finalement devient
c'est
personne.
Plus personne. Mm-hmm.
Non, c'est moi qui dois être l'agent de cette justice. Et quelque part, est-ce que en ce début d'année, je peux prendre une résolution, pas pour les 3 ou 4 prochaines semaines, mais une résolution pour la prochaine année, voire jusqu'à la fin de mes jours, que de m'engager dans une justice, faire mûrir cette justice, cette solidarité envers tous, ce regard porté sur le migrant, sur celui qui a commis une faute, sur celui qui est exclu, sur celui qui est en bas de chez moi, sur le voisin qui est peut-être un peu âgé et qui n'a pas de personne qui l'accompagne. Est-ce que je peux ouvrir les yeux ? Est-ce que je peux me laisser toucher ? Est-ce que ce germe qui est en moi, au regard de la compassion, de l'émotion, de l'empathie, va produire une justice, une équité, une fraternité. Parce que la fin du verset est formidable. Ce n'est qu'en passant par là qu'on aura la paix. En fait, bien souvent, on veut le chemin inverse.
On veut
faire des traités de paix, on veut une paix, et dans le texte biblique, c'est le shalom, cette paix pleine, entière. On veut la faire par des actes, par des décisions, par des contraintes imposées aux uns et aux autres.
Et
pour autant,
pas.
Le Seigneur nous dit, si tu veux la méthode, elle passe par un changement de cœur.
Moi j'entends un autre verset que vous connaissez, celui du livre de Michée, chapitre 6, verset 8. « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel attend de toi. Pratique la justice. » Aime la miséricorde, marche humblement avec ton Dieu, mais ça démarre là, pratique la justice, et c'est ce même type de justice que vous évoquez là.
Et j'aimerais vraiment que nos contemporains, qu'ils soient en église ou qu'ils soient dans la société, puissent changer le paradigme. Non, c'est pas en construisant des places de prison supplémentaires qu'on va avoir une meilleure justice. Non, c'est pas en enfermant les gens. 6 000 aujourd'hui sont dans 9 mètres carrés à 3.
Dans
à 3, c'est des conditions indignes d'une société telle que la nôtre. Non, c'est pas en punissant constamment, en étant de plus en plus ferme, que cela va changer les choses. C'est peut-être en changeant les paradigmes de base, c'est-à-dire avec une société ouverte, accueillante,
plus fraternelle.
Accompagnatrice, fraternelle, que des choses vont pouvoir changer. Mais bien sûr, ça demande du temps. Or, nous sommes à l'époque où tout doit aller vite.
Il faut des changements.
Il faut des changements immédiats. Ben, ça ne fonctionne pas. Et là, Dieu nous dit non seulement, ouvrez-vous, ayez une conception de la justice plus sociale, mais en même temps accepter de prendre le temps, un temps long, parce que au final, vous aurez une paix sociale, durable, une fraternité entre tous.
Eh bien, merci Philippe pour ces paroles ce matin, en ce début d'année. Merci aussi Sophie pour cet apport et tout ça se rejoint naturellement. Je vous souhaite bien entendu une très bonne année à tous les deux et au plaisir de vous avoir à nouveau au micro de Soleil et vous, Philippe, quand vous voulez.
Merci et bonne année à chacun.
Bonne année à tous.
Allez, quelques recommandations de livres en ce début d'année. Il est important de lire. Alors voici quelques conseils. Agir à contre-courant de Luc Maroni qui met en récit 6 personnalités de la Bible. Alors non pas pour les figer dans le passé, mais au contraire pour inspirer des choix courageux et transformateurs dans les dimensions justement sociales, économiques et politiques, comme nous en parlions ce matin. Un livre publié à compte d'auteur que vous pouvez pour le moment commander directement auprès de l'auteur justement par mail à l'adresse luc.maroni, M-A-R-O-N-I. @gmail.com. Arménie, terre chrétienne, hier et aujourd'hui, de René Léonian chez Salvatore, pasteur, docteur en théologie, titulaire de la chaire d'arménologie de l'Université catholique de Lyon. René Léonian raconte l'histoire du christianisme incarné dans la culture arménienne depuis les origines païennes jusqu'aux graves troubles géopolitiques qui affectent l'Arménie moderne. Il évoque aussi la destinée de sa diaspora, le témoignage que les Arméniens portent dans le monde contemporain. Enfin, deux nouveautés chez Olivier Tan. Marc, l'évangile de Marc, subtilité et surprise du plus ancien des évangiles, du pasteur Yon Karakash, dans la collection Au fil des Écritures. C'est une nouvelle traduction de l'évangile de Marc. Et puis surtout, c'est un commentaire face au texte, un commentaire extrêmement subtil qui renouvelle la lecture de cet évangile. Voyage intérieur vers l'horizon du pasteur Jean-Pierre Julien. Dans un style fluide et imagé, nous découvrons une autre manière de comprendre 3 notions bibliques que sont le cœur, l'âme et la force. Un ouvrage qui s'adresse à toute personne qui se questionne sur le sens de sa vie. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de ce premier soleil de l'année. Et donc, alors qu'une nouvelle année commence, ce rappel de ce verset d'Ésaïe qui veut nous accompagner. Le fruit de la justice sera la paix. Puissions-nous marcher, pratiquer justement cette paix, tant en église que dans nos vies personnelles et jusque dans les lieux où tout semble justement l'empêcher. Et je vous propose de finir avec Georges Reyes, ancien membre des Gypsy Kings, fils de Nicolas Reyes, le chanteur principal et petit-fils de José Reyes, le fondateur du groupe. Georges Reyes donc, qui nous conduit vers les informations de 9h avec Un Alléluia.
Un Alléluia, el Creador, un Alléluia. Un Alléluia, al Hijo de Dios, un Alléluia. Un Alléluia, al Vencedor y al Buen Pastor. Un Alléluia, el Creador, un Alléluia. Un Alléluia, al Hijo de Dios, un Alléluia. Un Alléluia, al Vencedor y al Buen Pastor.
C'était Soleil, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération Protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé par Thomas Jost, et avec Cédric Châtelut à la prise de son. Émission que vous pouvez réécouter cette semaine sur le site protestantpluriel.org, à tout moment sur celui de France Culture, et puis bien sûr en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, à 10h dans Présence Protestante, le magazine Ma Foi, qui a pour thème « Rayonner ». Et sur France Culture, dans quelques instants, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Un très très bon dimanche et surtout une bonne année à chacune et chacun. Et merci pour votre fidélité à Soleil, rendez-vous protestant, cette année passée et d'ores et déjà pour celle qui commence. À bientôt.
Un Alléluia, el Creador, un Alléluia. Un Alléluia, al Hijo de Dios, un Alléluia. Un Alléluia, al Vencedor y al Buen Pastor. Dios nos da alegría, Dios nos da el amor, Dios nos da la paz, incomparable mi Dios. Dios nos da la vida, Dios.
Creador. Un aleluya al Creador, un aleluya al Hijo de Dios, un aleluya.